s'est passé. Sauf que les gardes étaient sous, se sont endormis. Dieu, et non, on ne savait pas du tout ça. Des Bibles, donc nous, on a, notre équipe de porte-ouvrette a déchargé les Bibles sur la plage, et puis ils sont partis. Et les chrétiens chinois étaient là, ils ont défait ces grandes caisses de Bibles, mis les Bibles sur l'épaule. Et la police est arrivée, il y avait juste peut-être quelques milliers de Bibles qui restaient sur la plage. La police a jeté les Bibles dans la mer, et les chrétiens les ont repêchés. Les gens qui ont fait ça risquaient leur vie pour avoir la parole de Dieu. Non seulement les équipes qui ont fait ce transfert de Bible, parce que attrapés par les Chinois, c'était 10 ou 15 ans de prison, mais les chrétiens chinois eux-mêmes. Certains chrétiens, certains Peter Zhu, tête d'un mouvement d'église de maison, ils étaient attrapés par la police avec les Bibles. La police a pris les Bibles, ils les ont jetées dans une fosse septique. Donc il y avait en bas. Les chrétiens sont venus, sortaient les Bibles, ils les ont lavées, ils ont mis sur les toits pour sécher. On appelait ça des Bibles parfumées. Mais ils avaient tellement soif de la parole de Dieu. Ils disaient qu'on ne donnait pas une Bible à un chrétien s'il ne pouvait pas donner en échange une Bible qu'il avait écrite à la main. Et au bureau de Porte d'Ouvette, nous avons des exemplaires, des Bibles écrites par les Chinois à la main pour avoir la parole de Dieu. Vous avez combien de Bibles à la maison? Quelle est la valeur de cette parole de Dieu? Quelle place a la parole de Dieu dans votre vie? Il y a quelques 2-3 ans, Daesh a envahi la plaine de Ninive, en Irak. La plaine de Ninive, c'est la partie de l'Irak qui est chrétienne, où il y a une église qui remonte des siècles. Et donc, il y a des chrétiens, catholiques surtout, et orthodoxes. Et il y a des monastères. Et quand Daesh, les musulmans djihadistes, ont envahi la plaine de Ninive, les chrétiens se sont enfuis. Et vous connaissez les histoires, ils sont partis pendant la nuit. Souvent, même, ils n'ont même pas pris leur passeport. Ils sont sautés dans la voiture, ils sont partis, pensant qu'ils pouvaient revenir demain. Et en fait, ils ont passé 3 ans comme des réfugiés en Kurdistan. Il y avait un monastère où il y avait des sœurs. Et les sœurs sont parties. Et un jour, la sœur qui est responsable de ce monastère reçoit un coup de fil sur son téléphone portable. Et au bout du fil, il y a un djihadiste de Daesh qui est assis dans son bureau dans le monastère, qui dit « Ma sœur, madame, dites-nous où vous avez caché vos armes. Nous savons que vous, les chrétiens, vous avez des caches d'armes. C'est normal, vous serez armés. Montre-nous où, dans le monastère, vous avez vos caches d'armes. » Ah, elle dit, écoutez, vous avez votre téléphone portable, oui. Ben, vous sortez de la porte et vous descendez le couloir. Et donc, il a sorti de la porte, descendu le couloir. Vous descendez les escaliers, vous marchez le couloir, vous tournez à droite, à gauche. Vous arrivez à une porte. Nos armes sont là. Il descend jusqu'à la porte, il ouvre. C'était un stock de Bible. Elle a dit, c'est ça, nos armes, la parole de Dieu. La Bible, c'est notre arme. La Bible, c'est une chose qui est précieuse. Qu'est-ce que vous feriez si vous n'avez pas la parole de Dieu chez vous? Si la parole de Dieu était interdite? Les chrétiens nord-coréens cachent la Bible enterrée dans le jardin. Ils sortent la nuit pour lire la parole de Dieu. Je me souviens d'un témoignage d'une femme coréenne, nord-coréenne. Elle a dit, je ne comprenais pas pourquoi mon papa, pendant la nuit, se levait. Et il sortait, puis il revenait, et puis il restait assis à 2h le matin dans le salon, dans la pièce où on vivait, puis il allait se coucher. Je ne savais pas, je ne comprenais pas. Mais quand j'étais adolescent, il m'a dit le secret. Je suis chrétien. Et quand je sors la nuit, c'est pour lire ma Bible. Et quand je suis assis, c'est pour prier. Tellement c'est dangereux simplement de laisser quelqu'un savoir que vous avez la parole de Dieu. On va parler de la prière demain et l'importance de la prière pour nous, mais aussi pour l'Église persécutée. L'Église persécutée nous rappelle la réalité du corps de Christ. Un de mes premiers voyages en Amérique latine, c'était en Colombie. Je suis allé avec quelques collègues dans la ville de Urabá, qui est dans le nord-est, près de Panama, en Colombie. C'était à l'époque où le pays était déchiré par la guerre civile. Et Urabá était une petite ville entourée par le FARC et les guérilleros. Toutes les campagnes autour de la ville étaient occupées et les chrétiens vivaient donc entourés par la guerre civile et par ces terroristes qui étaient marxistes, qui étaient antichrétiens. Je me souviens, on a pris un petit avion pour survoler la jungle et puis on atterrit dans cette petite piste côté de la ville, dans un petit avion, et un soldat armé, un pistolet à la main, vient à l'avion pour ouvrir la porte. Tellement il était nerveux de nous voir. On entre dans la ville, tout le monde est fouillé, on ne pouvait pas sortir, entrer dans la ville sans être fouillé par l'armée. Et on a rencontré des pasteurs. C'était une drôle d'ambiance. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans les églises, il y avait les endroits, on me disait, voilà, là, pasteur a été tué. Là, quelqu'un a vécu un attentat. Et je me souviens de cette réunion, on était un petit nombre de pasteurs dans une salle comme ça. Et ce pasteur nous a dit, moi je viens de la campagne, je viens d'une petite ville dans les montagnes. Et avant de partir, le FARC m'a dit, donc le guerrieros, le terroriste, si vous allez à cette réunion de pasteur, vous ne pouvez pas revenir. Vous êtes un homme mort. Mais il a dit, je ne pouvais pas ne pas venir. Je cours le risque qu'il découvre que je suis venu, mais je veux être avec vous. Tellement l'importance simplement de la communion fraternelle, d'être ensemble. Aujourd'hui, en Iran, il y a un réveil. Il y a plus d'Iraniens qui deviennent chrétiens, que dans tous les autres pays musulmans du monde. L'Iran, qui était le pays avec la révolution islamique, Khomeini, le premier pays qui a fait une révolution, chassé un gouvernement séculier pour devenir islamique. Aujourd'hui, c'est le pays où les gens se convertissent à Jésus. Je me souviens que quelqu'un nous a dit que parfois, ils vont dans des quartiers dans une où il y a un marché où les gens sont et puis ils disent alléluia. Alléluia, c'est pas musulman, hein, c'est bon. Et quelqu'un dit alléluia, ils entendent quelqu'un d'autre alléluia, alléluia. Et c'est comme ça qu'ils savent qui sont les chrétiens dans le quartier. Les églises sont dans les maisons, dans les appartements. Et quand la police découvre une réunion, la première chose qu'ils font, c'est confisquer l'appartement. Est-ce que vous aurez un groupe de quartier chez vous si vous saviez que si on avait été découvert, on va aller vous confisquer votre appartement? En Asie centrale, quand on fait le culte dimanche matin, c'est autour d'une table. Tout le monde est assis autour de la table. Comme ça, si quelqu'un vient, on dit, ah bon, on est en train de manger. Ben non, c'est le culte. Et on chante à voix basse pour que personne n'entende. C'est important parce qu'on est en train de vivre cette période de confinement. Et j'ai découvert qu'il y a des gens qui ne vont plus à l'église. J'ai rencontré quelqu'un chez nous, il y a quelques mois, une dame qui dit, ça fait des années que je vais plus à l'église. Je regarde des cultes sur Internet. Mais l'église, c'est quand le corps de Christ vient ensemble devant Dieu. Ce n'est pas juste un choix d'entendre une prédication. C'est quand Dieu, en tant que corps de Christ, en vient devant le Seigneur, symboliquement, pour vivre la présence de Dieu ensemble. Et l'Église persécutée nous rappelle combien est important le culte. Oui, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas venir, il faut être très prudent. Mais je sais qu'il y a des pasteurs qui craignent qu'après, certaines personnes ne reviendront pas. Ne mettons pas, mettons une priorité pour se retrouver. Vous savez, en Europe de l'Est, les chrétiens allaient dans les forêts, dans les bois, pour se retrouver. Tout comme pendant la période de la Réforme en France, où il y avait des cultes dans le désert, ce qu'ils appelaient ça. L'Église persécutée nous rappelle combien c'est important, le corps du Christ, le culte, venir ensemble. C'est intéressant dans Hébreux. Juste avant que il dit souvenons-nous de cette persécution qui est passée avant, il dit n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. C'est très important, l'assemblée, de venir ensemble devant Dieu. L'Église persécutée nous rappelle ou plaide pour l'unité. C'est une chose que j'ai remarquée, à la fois ici en France, mais dans les pays où l'Église persécutée, c'est que dès qu'on parle de la persécution, les chrétiens viennent ensemble. Je me souviens des réunions de portes ouvertes, et je connaissais des membres des églises qui étaient là. Ils disaient, voilà, il y a un derbys très très étroit, et à côté, il y a une charismatique très... Et, tous viennent ensemble parce que la persécution nous met sur tous sur le même pied d'égalité. Les premiers chrétiens d'Europe de l'Est nous disaient souvent c'est dans la prison qu'on s'est rendu compte qu'il était un frère en Christ. Jusqu'à là, on ne parlait pas aux pentecôtistes. Mais quand on était en prison ensemble, on a dû se dire non, excuse-moi, on est tous des frères en Christ. La Bible dit que quand une partie du corps de Christ souffre, tout le corps souffre. Et on fait partie de ce corps de Christ qui est mondial. Et quand il y a une partie du corps qui souffre, nous, on souffre avec cette partie du corps de Christ. C'est pour ça que c'est important pour nous. On ne peut pas juste dire c'est leur problème. On est tous membres du corps de Christ. Le but du communiste était de diviser l'Église. C'est intéressant que Staline avait compris que quand l'Église était persécutée et souterraine, il ne pouvait plus contrôler l'Église. Et donc il était, OK, on va avoir fait une Église enregistrée, une Église qui est permise par l'État, une Église qui est ouverte, sauf que je veux contrôler ce qui se passe à l'intérieur. Et donc il y avait deux Églises, en Chine, en Union soviétique, une Église enregistrée qui est... tout à fait au-dessus, et l'église souterraine. Et Staline voulait diviser l'église. C'était ça le but. Nous, on veut que l'église soit ensemble, le corps de Christ uni. L'église persécutée nous rappelle que la seule façon de vivre le ministère avec Christ, c'est par la croix. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, pour que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. Paul, quand il écrit à Timothée à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il lui dit? Tu as suivi mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. Quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Le Seigneur m'a délivré de toutes. Paul voulait montrer à Timothée que le ministère se passe par la croix. Wang Mingdao était un pasteur chinois, un homme très connu, un auteur de livres, il était invité à droite et à gauche, bon, souvent, pour parler en public. C'est un homme très reconnu, très public. Et puis, les communistes ont pris le pouvoir en Chine populaire. Et on lui a donné un choix. Et il a renié sa foi. Et on lui a dit, en fait, tu fais un petit compromis et on te laisse en liberté. Et devant ce choix, Wang Mingdao a fait ce petit compromis. Il a dit ce qu'il fallait dire et il était laissé en liberté. Et là, il s'est rendu compte qu'il était comme Pierre dans la Bible qui a renié son Seigneur. Et il a marché dans les rues de Pékin, brisé. Il a dit, ok, je vais retourner, je vais leur dire ce que je crois vraiment. Il est retourné, il est mis en prison. Il a passé 22 ans en prison. 22 années. Il a dit ceci, la prison pour moi, c'était ma lune de miel avec le Seigneur. J'ai passé 22 années avec mon Seigneur en prison. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. L'Église persécutée nous défie notre compréhension de ce que c'est la norme. Qu'est-ce que c'est une vie chrétienne normale? Nous voulons la puissance de la résurrection, mais est-ce que nous sommes prêts à vivre la communion de ses souffrances? Chacun d'entre nous, je crois, a une souffrance. Dieu nous fait toujours porter la croix. Et dans chacune de nos vies, je pense qu'il y a cette souffrance qui est nécessaire, qui est notre chemin avec le Seigneur. Souffrance dans la famille, dans la santé, dans quelque chose que vous avez vécu. Mais Dieu, je pense, nous appelle à ces deux choses, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Les chrétiens en Irak nous ont dit ceci. Ils ont dit, tu sais, l'Irak aujourd'hui, c'est le meilleur endroit dans le monde pour être chrétien. On dit, bah, quoi? Bah, d'abord, tu ne mets plus ta confiance en les choses matérielles. J'ai perdu ma maison, j'ai tout perdu du jour au lendemain. Plus rien. J'avais une boutique, une entreprise, j'ai plus rien. Deuxième chose, tu découvres que ta vraie famille, c'est l'Église. Quand tu rencontrais des chrétiens irakiens dans les camps de réfugiés en Kurdistan, qui n'avaient plus rien, qui vivaient dans le froid de l'hiver, dans une espèce de bâtiment à moitié construit, avec juste quelques couvertures, rien du tout. Mais entre eux, ils avaient redécouvert la valeur de la famille en Christ. La persécution, ils nous ont dit, te donne beaucoup d'occasions pour servir les autres. Avant, vous avez du mal à trouver de quoi faire pour aider votre voisin. Maintenant, on est gâtés. Et tu as le sentiment de vivre comme les héros de la Bible. C'est ça qu'ils nous ont dit. Dieu, on a un sentiment maintenant de vivre comme les héros de la Bible. Et finalement, en Irak, tu as le privilège d'être persécuté pour la foi. Pourquoi mourir de cancer si tu peux mourir pour Jésus? C'est ça qu'ils nous ont dit. Bon. C'est ça le témoignage de ces chrétiens. Finalement, la dernière chose que l'Église persécutée nous rappelle, c'est le coût de la mission. J'ai intitulé ce livre « Comme le Père m'a envoyé ». C'est un livre que j'ai écrit donc, il y a 18 mois, où j'ai essayé de prendre ces leçons que j'ai apprises de l'Église persécutée depuis les 37 années que je travaille pour Portes Ouvertes. Et c'est un rappel que Jésus a dit à ses disciples à sa résurrection, « Quand le Père m'a envoyé dans le monde, je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé dans un ministère pour atteindre le monde, je vous envoie de la même façon. » On a le même appel que le Seigneur lui-même. Il y a un verset qui m'a parlé énormément un jour. En fait, je ne comprenais pas ce verset du tout. C'est dans Colossiens chapitre 1, verset 24. Paul écrit aux Colossiens, il dit ceci. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. » Je me suis dit, mais est-ce que Jésus a souffert pour nous? Il a tout payé. Qu'est-ce que Paul pouvait faire pour répondre au manque de souffrances en Christ? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi ces souffrances étaient pour eux? Alors, je suis bon protestant, ne vous inquiétez pas. Sola gratia. Jésus seul a payé le prix de nos péchés. Mais nous devons payer le prix pour amener l'Évangile dans le monde. Comme le Père a envoyé Jésus dans le monde, nous sommes envoyés dans le monde. Paul comprenait que sa souffrance en prison était le prix à payer pour que le message soit envoyé dans le monde. Cette mission que nous avons à gagner le monde pour Christ n'est pas gratuite. Il y a un prix à payer. Est-ce que vous croyez que Dieu peut amener à Christ la France? Qu'il puisse y avoir un réveil, que ce pays puisse être balayé par l'Évangile? Quel serait le prix qu'il faut payer pour ça? Parce qu'il y aurait un prix à payer. Pendant qu'on mangeait hier soir avec Pedro, on parlait du fait que le mot grec de martyr, de témoin, bon, le mot témoin, c'est martyrion. Ça veut dire, et nous on a pris ce mot pour prendre le mot martyr. Parce que les chrétiens des premiers siècles, l'homme, quand quelqu'un était emmené dans le cirque et déchiré par les bêtes, il devenait un martyr, il était un témoin pour Christ. Et il croyait que ce sacrifice était essentiel pour témoigner pour Christ dans le monde. Il y a quelques années, le WEC, qui fait un travail chaque année sur Operation World, ils appellent ça, vous connaissez Operation World, c'est un travail qui est fait où ils regardent l'Église partout dans le monde, pour voir quels sont les pays où l'Église grandit le plus vite. Et donc, il y a tout un travail, vous allez sur Internet et trouvez ça. Quels sont les pays dans le monde aujourd'hui où les chrétiens, l'Église grandit le plus vite? Et il y a quelqu'un du WEC qui a pris ça, il a pris l'index de persécution de Porte ouverte, il les a comparés. Il a dit, c'est marrant, là où la persécution est le plus fort, c'est là où l'Église grandit le plus vite. Il y a un prix à payer pour la croix. Alors, qu'est-ce qui vient en premier? La persécution, la croissance. La croissance emmène parfois vers la persécution, parce que, comme en Inde aujourd'hui, il y a beaucoup de convertis, et les hindous n'aiment pas. Et parfois, la persécution prépare l'Église pour la croissance. Une des choses que la persécution fait, c'est d'éparpiller les chrétiens. Watchman Nee, je ne sais pas si vous connaissez ce mot. Watchman Nee était un Chinois qui a écrit de très bons livres avant la révolution communiste. Et un jour, il était avec des gens, il a pris un verre, il a jeté le verre par terre. Et le verre s'est cassé en petits morceaux. Et puis il a dit, essaye de mettre tous les morceaux, remettre les morceaux ensemble. Il a dit, quand la persécution arrive, Dieu jette l'Église dans le monde. Les chrétiens sont éparpillés. Ils emmènent l'Évangile. Et c'est comme ça que la Chine, pendant des années, était l'Église qui grandissait le plus vite du monde. Une Église qui est passée de 600 000 à 100 millions en 60 ans. 600 000 à 100 millions en 60 ans. Dieu peut tout faire. Je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. On a jusqu'à quelle heure? Moins quart. Quand vous allez au Kenya, Nairobi, je ne sais pas si vous avez visité le Kenya, Nairobi, vous arrivez à l'aéroport. C'est le seul aéroport au monde où j'ai entendu sur les haut-parleurs des cantiques chrétiens. C'est un pays chrétien. Mais quand vous allez vers l'est, vous vous approchez de la Somalie. Et c'est là où il y a des djihadistes, le groupe Shabab. Et le pasteur John Jarama était là-bas. Et il voulait emmener l'évangile tout près de la frontière, près de la Somaliland. Et quand on lui a dit, mais ne va pas là-bas, c'est très très dangereux. Tous les bus sont arrêtés, les djihadistes arrêtent les bus, ils demandent aux gens de descendre, et puis ils passent les uns après les autres. Vous êtes musulman? Ok. Vous êtes chrétien? Oui, il le tue. Mais il a dit non, il faut que j'aille là-bas. Il faut que j'apporte l'encouragement à mes frères et sœurs. Ça s'est passé. En route, leur bus était arrêté. J'ai vu des bus là-bas, souvent avec l'armée qui. Les 4x4 avec des soldats armés. Mais ce bus-là, il n'y avait pas de soldats. Ils sont tombés dans une embuscade. Et il essaie de sortir du bus. Il a été tué. Il y a un prix pour l'évangile. Il y a un prix à payer pour apporter l'évangile. C'est Joseph Stone, qui était un Roumain, qui était un théologien, qui a dit ceci. Christ est mort pour notre propitiation. Nous, nous devons mourir pour la propagation de l'évangile. Comprenez? Christ est mort pour notre propitiation, mais nous, on devrait mourir pour la propagation, comme le Père m'a envoyé. Ce sont les leçons que l'Église persécutée nous rappelle et nous enseigne. Alors, on va faire une petite discussion de nouveau. Et j'aimerais imaginer dans 5 ans, octobre 2025. Dans octobre 2025, la Bible est maintenant interdite en France, car elle parle contre l'homosexualité, etc. Donc, la Bible est interdite. En fait, il y a une nouvelle traduction qui est faite par le gouvernement, et vous pouvez avoir cette traduction, mais la Bible classique, vous n'avez pas le droit d'avoir. Le gouvernement a décidé qu'on ne peut pas avoir un panneau Église évangélique devant le bâtiment. Et donc, tous les bâtiments doivent être anonymes. En plus, pendant le culte, un agent de la mairie doit être présent pour être sûr que le pasteur ne dit rien contre l'État ou le système culturel. En plus, il y a un système qui fait que Crédit Social, si vous faites quelque chose qui est contre la tolérance, vous allez perdre les avantages, payer plus d'impôts, ne plus avoir le droit de voyager. Il est interdit de prêcher que le christianisme est la seule voie vers le salut. Dans 5 ans, alors la question pour la discussion, c'est comment on va préparer notre Église pour une telle éventualité? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour nous préparer? Si vous étiez responsable d'une église, qu'est-ce que vous feriez pour les jeunes, pour les adultes, pour préparer l'église à une telle éventualité? Ça va? Donc on a un quart d'heure, et puis dans le même groupe, avec quelqu'un qui va faire un petit rapport après. Comment préparer l'Église à la persécution? Si vous avez des bonnes idées, je vous envoie sur le terrain, avec portes ouvertes, pour former les chrétiens là-bas. Mais pour tout fait, fait cette formation, des formations comme ça, dans les pays où l'Église est persécutée, pour aider les chrétiens à se préparer. En Afrique occidentale, en Afrique francophone, c'est intéressant, juste, c'est que il y a, quand Porte Ouverte a commencé le travail en Afrique francophone, l'Église n'était pas persécutée. Mais on avait la conviction qu'il fallait préparer l'Église, parce qu'on voyait ce qui allait venir. Cette année, l'année dernière, depuis quelques années, dans les pays où il n'y avait pas de persécution, il y a maintenant la persécution. Comment préparer les chrétiens à cette éventualité? C'est ça la question. Donc voilà, la question de discussion. Et puis dans 10 minutes, on va faire ensemble.